Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure, comme vous le savez, à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Vous savez que l'objectif de notre émission, bien, c'est de vous aider à entrer dans les textes qui sont choisis par la liturgie, au moins la liturgie catholique romaine, le dimanche qui suit. Alors, Francine, bien bonsoir.
Bonsoir, Claude.
Bien, écoutez, Francine, on est dans une série de paraboles. Hein? Ça fait déjà deux fins de semaine, là, et dans les fins de semaine à venir aussi.
Oui, il y en
là.
A, je crois, mm-hmm. quatre de suite, là, une série de paraboles qui se situent toutes dans la section du ministère de Jésus à Jérusalem, et donc dans la section, pourrait-on dire, plus problématique de la vie de Jésus, puisque c'est à Jérusalem que les principaux affrontements...
C'est là qu'il y a des problèmes. En Galilée, il y en a très peu.
Oui, c'est ça. Hein? Il y a des accrochages, des disons accrochages. Plutôt, avec des pharisiens,
tandis que
des
c'est
scribes.
Très sérieux à Jérusalem.
Oui, à Jérusalem, mm-hmm. parce que, évidemment, les chefs religieux sont à Jérusalem. Et c'est clair que les tensions ou l'aspect polémique est toujours accentué dans l'évangile de Matthieu. Mais ça reflète quand même, c'est le cas de notre parabole d'aujourd'hui, ça reflète un contexte historique assez vraisemblable. Jésus va s'affronter aux responsables de l'orthodoxie religieuse. Par contre, on peut se rappeler que pour Jésus, la parabole est aussi un outil de dialogue. Hein. Raconter une histoire plutôt que d'entamer une sorte de combat d'arguments théologiques.
C'est ça, de polémique.
Alors, d'essayer, au fond, de proposer une histoire pour aider les gens à réfléchir dans une situation qui peut-être autrement serait bloquée et où toutes les portes se ferment. C'était le cas avec la parabole de la semaine dernière des ouvriers de la 11e heure. Ici, ça va être le cas aussi, et ça sera perceptible davantage à la fin de notre texte d'aujourd'hui, c'est-à-dire après la parabole, là où il y aura un dialogue. Simplement pour annoncer aussi à nos auditeurs que cette parabole, qui est propre à Matthieu, elle est utilisée par Jésus pour faire une étude de cas. Hein. Il propose aux gens qui sont là, qui sont les autorités religieuses, de juger sur un cas qu'il expose. Et ce cas, c'est un père avec ses deux fils. Les deux fils, on le constatera, sont construits vraiment de façon opposée l'un par rapport à l'autre, et la lecture nous permettra de l'observer davantage.
Alors, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 21. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait deux fils. Il vint vers le premier et lui dit, « Mon enfant, « va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Venant vers le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean, le baptiseur, est venu à vous dans un chemin de justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées l'ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repenti pour croire en lui. » Alors, Francine, d'abord, c'est une parabole qui, à première vue, est d'une simplicité, désarmante, si on peut dire.
Oui, elle est tellement symétrique.
Hein. Ah, c'est pas possible, quoi. Vous parliez de polémique, puis tout ça, puis on est en présence de quelque chose, bon, de tout simple.
C'est l'utilisation que Jésus en fait, qui est polémique. Hein, et on ne mesure pas bien, on aura l'occasion d'y venir au courant de notre échange, mais c'est la finale qui est très, très polémique. Lorsque Jésus reprend l'image des fils en parlant des publicains et des prostituées, c'est, ouais, ça a quelque chose de très choquant, sur lequel on reviendra. Mais oui, on a deux fils. On a comme un miroir, hein, lorsque on se regarde dans le miroir et que notre main gauche est devenue notre main droite. C'est exactement ce qu'on a avec les deux fils. Face à face, l'un dit oui, l'autre dit non. Et ensuite, chacun des deux change d'avis.
Ils font le contraire de leur parole, de leur réponse.
C'est ça.
Quoi.
Chacun fait le contraire de ce qu'il a dit et le contraire de l'autre. La symétrie est vraiment parfaite. Et c'est intéressant, lorsqu'un récit est construit avec une telle symétrie, d'observer à quel endroit la symétrie dérape. À quel endroit, tout à coup, ça n'est pas symétrique. Et on se rend compte que, pour le premier fils, qui est quelque chose qui arrive dans son portrait et qui n'est pas dans le second, c'est le verbe se repentir, hein, se raviser, pris de remords, changer d'avis. Hein, le premier fils dit non et se repentant y alla. Donc on a un verbe qui nous dit qu'il a changé d'avis. De toute évidence, le deuxième aussi a changé d'avis, mais nous n'avons pas de verbe qui le dit. Se repentir ici, là, ça n'est pas, peut-être pour des gens qui sont familiers du vocabulaire de la métanoïa, ça n'est pas ce vocabulaire de la conversion profonde, mais plutôt regretter une décision, être pris de remords. C'est par exemple le même verbe que nous avons dans Matthieu 27 à propos de Judas, qui est pris de remords et va rendre l'argent qui lui a été versé pour sa trahison de Jésus. Mmh.
Donc, la meilleure traduction française serait peut-être « pris de remords ».
Oui, ou « se repentir », c'est bon aussi.
Ouais, ouais.
Si « se repentir » n'est pas compris au sens de la métanoïa, okay, se convertir, mmh, c'est ça. Pour le second, dans le portrait
du
second fils...
Ah oui, par exemple,
fils,
ça c'est surprenant. Il,
oui,
dit, quand, d'ailleurs en lisant, ça m'a... J'ai failli arrêter.
Oui.
Il dit « Seigneur ».
Oui.
Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler à son père?
C'est très peu fréquent, en effet. C'est notre curié, hein. C'est le Seigneur Kyrios, notre curié Eleison. Mm-hmm.
Oui.
Vous voyez, notre... Mm-hmm. Et donc, il donne une réponse à son père presque solennelle, hein. En tout cas, qui marque
une
grande révérence et donc grande soumission. Ça accentue d'autant l'insoumission qui suit, puisque dans les faits, il ne va pas obéir à son père. Ma mère dirait, il lui donne du oui long comme le bras, mais il fait rien, en fin de compte, vous voyez. Donc, sa parole ne va pas se traduire en acte. Et la question que Jésus pose dans son étude de cas, ce qu'il demande à ses interlocuteurs, attire vraiment l'attention non pas sur ce qui a été dit, mais ce qui a été fait. Lequel des deux a fait la volonté du père? Et bien sûr, comme vous disiez, c'est un cas tellement simple. La réponse est évidente. Que pouvait-il répondre d'autre que le premier,
oui,
évidemment? Celui qui a dit non, et non pas celui qui a dit oui, Seigneur, c'est celui-là qui a fait la volonté du Père.
Et on touche toute la particularité du judaïsme, enfin du bon judaïsme. Quand je dis judaïsme, c'est très positif, là. Le faire, hein?
Oui.
En grec, là, poyein, là.
Oui,
agir,
oui,
faire, passer à l'action.
Exactement, un agir concret, réel.
Mm-hmm.
Dans la foi juive, le faire, c'est le critère décisif de la fidélité, hein. C'est pas l'opinion, la bonne volonté, la rectitude théologique. Au fond, le judaïsme n'est pas c'est une orthopraxie.
C'est ça, une religion d'action.
Oui, tout à fait.
Ouais.
C'est une,
ouais,
pratique. On le remarque bien, par exemple, dans la finale du sermon sur la montagne. Hein. Celui qui a entendu mes paroles et qui les met en pratique. Celui-là construit sa maison sur le roc.
Et non pas seulement celui qui a entendu mes paroles.
Oui, ni même celui qui les a bien comprises.
Qui les a bien comprises, puis sur lequel il est capable de dire plein de choses. Quoi.
À la radio, par exemple.
Voilà.
Il s'agit vraiment donc de bien les mettre en pratique.
L'agir.
Et ceci est vrai donc pour la foi dans laquelle Jésus de Nazareth a grandi. C'est vrai aussi de façon prioritaire pour l'évangéliste Matthieu et pour sa communauté, puisque nous sommes en monde juif devenu chrétien. Mais je signale que ça a été aussi adopté par la foi chrétienne, parce que la finale de celui qui écoute et met en pratique bâti sur le roc, on l'a aussi dans Luc. Donc, il s'agit vraiment...
Vous avez raison. Là, il ne s'agit, s'agit pas de dire que le judaïsme a ça et que nous, ça ne nous concerne pas.
Non,
bien
au contraire.
Nous sommes des judéo-chrétiens.
C'est
on ne répétera jamais assez ça.
Et nous en héritons de cette exigence qui dit « la vérité profonde de la personne n'est pas dans ses idées, mais dans son comportement et dans son agir ». Donc, la parabole chez Matthieu sert à illustrer des prises de position réelles face à Jésus. Hein. Les deux fils qui sont inventés pour l'histoire incarnent en fait des gens réels qui ont deux attitudes opposées face à Jean et face à Jésus, des attitudes qui se traduisent en actes, c'est-à-dire on vient peut-être les écouter poliment, mais on met pas en œuvre ce qu'ils disent, ou alors... on s'intéresse pas parce qu'on est des pécheurs, puis finalement on entend l'appel et on agit. Ce que j'aimerais signaler par ailleurs, c'est que même si ces deux fils sont présentés et construits dans des portraits très opposés, il me semble qu'ils ont un point commun. C'est leur ambivalence face à la décision à prendre. Je trouve que, mis ensemble, les deux fils incarnent le fait que faire la volonté de Dieu, ça n'est pas, il n'y a pas d'obéissance parfaite. Il n'y a pas de conformité pleine et entière. Tantôt, on dit oui, et puis finalement, ça ne se rend pas jusqu'à la mise en œuvre. Tantôt, on dénonce ce qu'il y a de radical comme exigence, et puis finalement, on pose des actes qui sont dans le droit fil de l'Évangile. Aucun des deux fils n'incarne l'obéissance parfaite. Et les deux ensemble, je trouve, représentent comme deux voix complémentaires qui parlent en nous. Ça reflète, je dirais, notre ambivalence face à la radicalité de ce qui nous est proposé par le projet même de Dieu.
Bon, Francine, comme nous avons du temps devant nous, on peut se permettre donc de faire des liens avec la première lecture. Hein.
Oui.
La première lecture dans la liturgie de dimanche prochain sera un extrait du prophète Ézéchiel au chapitre 18.
Oui, et le choix est assez heureux, je trouve, puisque dans notre parabole d'aujourd'hui et son contexte, il y a de toute évidence un appel pressant à prendre une décision. C'est aujourd'hui, va aujourd'hui à ma vigne. Cet appel avec son urgence, cet appel au repentir, Jésus le propose, mais il n'est pas le premier. Jean-Baptiste l'a fait et les prophètes l'ont fait. Et cette ambiance d'appel urgent, on la retrouve dans le livre d'Ézéchiel. Peut-être... pourrait-on rappeler pour
oui,
les gens...
Oui, ce serait intéressant qu'en quelques secondes que vous nous... Moi, j'aime bien, moi, savoir un petit peu le prophète dans quel contexte. Ça aide beaucoup à comprendre.
Lorsqu'il est possible, en tout cas, de le savoir,
Alors... bon, parce qu'Ézéchiel, c'est pas sûr.
Oui, Ézéchiel, justement, ça tombe bien.
Ah, ça tombe bien, OK.
Donc, c'était à l'origine un prêtre du Temple de Jérusalem. Le temple a été détruit. En fait, Ézéchiel vit à une époque...
très trouble.
Tragique.
Période
tragique de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire que le pays est conquis par Babylone. le temple est détruit, alors bien sûr, tout le clergé du temple perd d'une certaine manière sa raison d'être, et Ézéchiel va devenir prophète. Donc, c'est comme une deuxième vocation. Et sa mission, au fond, va être d'essayer d'aider les gens à trouver du sens à cette catastrophe nationale. Donc, on peut situer sa mission de à peu près 593 à 570 avant Jésus-Christ. Donc, près de 600 ans avant Jésus-Christ. Les élites religieuses et politiques sont emmenées en exil. Une partie de la mission d'Ézéchiel se passe avant cet exil à Jérusalem, et l'autre partie après cet exil dans lequel il les accompagne. Ce qui concerne notre texte, en fait, tout le chapitre 18 dont notre texte est tiré, c'est toute la question de la punition pour les fautes des pères. Et vous voyez, les gens qui vivent cette catastrophe peuvent se dire, voilà, on paye pour la faute des générations passées.
Des générations qui nous précèdent.
Et donc, oui,
c'est nous qui payons la facture.
Voilà, on doit se résigner, c'est comme ça. Ça nous paraît injuste, mais c'est un bon vieux dicton. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils en ont été agacées. Ce dicton que Ézéchiel va reprendre à quelques reprises, on le trouve au début du chapitre 18. Et Ézéchiel enchaîne lorsqu'il cite ce dicton, « Vous allez arrêter de dire ça. » Parce que lui, il n'est pas d'accord avec cette manière traditionnelle de penser l'action de Dieu. Il conteste cette croyance, si on veut, traditionnelle, et il renvoie à la responsabilité éthique de chaque personne. C'est chacun qui est pesé en fonction de ses actes personnels et non pas pour les fautes des générations précédentes. Au temps de Jésus, c'est une notion qui est bien intégrée dans la foi juive, c'est-à-dire chacun est responsable devant Dieu de ce qu'il fait. Dans notre texte d'aujourd'hui, Ézéchiel va plus loin et là rejoint davantage notre parabole. Non seulement chacun paye pour ses fautes, mais, quelles que soient nos fautes, on peut toujours décider d'agir autrement. Et là, on rejoint la parabole. Ézéchiel dit, décide aujourd'hui.
Décide aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que je continue?
Oui, allez-y donc.
C'est ça. Décide aujourd'hui. On dit que c'est important, ça. Le juste qui se détourne de sa justice et meurt dans cet état subit les conséquences. Le méchant qui se repent et pratique le droit et la justice est sauvé.
Voilà, et c'est ce que moi je résume avec la formule « décide aujourd'hui » qui n'est pas dans le texte comme tel. Donc, que tu sois méchant ou bon, ce qui va compter, c'est la décision que tu prends maintenant. Et notre texte commence avec une phrase,
en fait, ça commence par « parole du Seigneur, je ne désire pas la mort du méchant ». Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur est étrange.
Je ne désire pas la mort du méchant, dit le Seigneur. Ça veut dire, je l'appelle à changer d'avis, à changer d'idée et à changer de conduite, puisqu'on est en foi juive et que finalement, ça ne sera pas l'opinion et l'idée qui va compter, mais l'agir. Et les gens trouvent ça étrange. Hein? Pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Comme si le fait que Dieu ne se résigne pas à ce que le méchant reste dans son chemin, ça apparaît étrange pour les gens. Ça apparaît comme une attitude inattendue. Pour Dieu, Ézéchiel nous dit, la conduite adoptée n'est jamais définitive. Le passé personnel ne bloque jamais notre avenir. Dieu ne fait jamais une prison avec les erreurs que nous avons pu commettre. Et on est très loin alors de ce calcul avec lequel moi j'ai grandi, la comptabilité des bonnes actions, des mauvaises actions, avec Dieu qui va faire une moyenne dans tout ça. Le texte d'Ézéchiel nous dit non, il n'y a pas de garantie avec tes actes passés, il n'y a pas de prison non plus avec tes actes passés. Chaque jour, la décision est devant toi et non derrière toi. Tu peux toujours décider de changer de chemin dans tes actes concrets, vous nous l'avez bien lu, pratiquer le droit et la justice, et ce sera cette décision et ce bout de chemin maintenant que Dieu regarde. Et là, on est très proche de la parabole de l'Évangile, dans laquelle il n'y a pas une ombre de reproche sur les réponses bonnes ou mauvaises, tout porte sur qu'est-ce qui a été fait finalement. Vous voyez? mettre en pratique l'agir, agir selon la demande du Père, c'est ça. Donc, entrer dans les chemins. Il y a un vocabulaire très concret dans notre texte qui ressort peut-être moins bien de la traduction, mais le mot « chemin » est présent dans les versets que nous avons et les versets aussi qui suivent immédiatement, le verset 29, le verset 30. On parle de la conduite, mais en fait, on devrait dire le chemin ou les voies de Dieu.
La traduction de la liturgie a retenu, est-ce que c'est pourquoi je jugerai chacun selon ses chemins?
C'est ça, normalement dans la traduction liturgique, ce serait sa conduite.
Okay.
Et c'est vrai, c'est pertinent de dire sa conduite, mais c'est vraiment comme une relecture d'un mot très concret, ce sont les chemins sur lesquels on marche. J'aime à le souligner parce que ce vocabulaire-là, qui est très présent ici, va être aussi très présent dans le psaume de notre liturgie.
Oui, qui est toujours choisi.
Ce dimanche,
Le psaume qui est toujours choisi en fonction de la première lecture, hein, comme étant une réponse à la parole de Dieu.
Bon, ouais.
Alors c'est l'Assemblée qui, ayant entendu le texte du Premier Testament, à ce moment-là, répond avec un psaume. Et effectivement, le psaume va parler du chemin.
Oui, tout à fait.
Effectivement.
Comme ce vocabulaire-là est dans le psaume, ça vaut la peine de se rappeler qu'il est aussi dans le texte d'Ézéchiel. Mais vous m'apprenez quelque chose, hein? J'ignorais que le psaume était prévu en réponse. Alors, ici, il est bien choisi. Et je rappelle encore là que cet intérêt pour l'image concrète du chemin sert à mettre en valeur le fait que c'est une orthopraxie qui est visée dans la foi juive, c'est-à-dire des actes concrets aussi, ce que le chemin reflète bien. Peut-être, Claude, pourriez-vous nous lire ce psaume, s'il vous plaît?
Bon, alors c'est le psaume numéro 25.
Dans les Bibles, c'est le psaume 25.
Ouais, c'est ça, je comprends. Et puis, comme je vous disais, voilà, c'est que l'Assemblée a entendu donc la parole d'Ézéchiel, et elle répond, en tout cas, je sais que dans la paroisse où j'ai le privilège d'être curé, l'Assemblée chante le psaume. Et c'est l'Assemblée qui chante, qui répond et qui, par son chant, dit qu'elle a compris la parole. Bon, alors écoutons ce qui va être chanté dans les églises dimanche prochain, c'est ceci. « Seigneur, enseigne-moi tes chemins, fais-moi connaître ta route, fais-moi cheminer dans ta vérité. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ta fidélité depuis toujours. Ne te rappelle pas les révoltes de ma jeunesse. Rappelle-toi de moi dans ton amour. Il est droit, il est bon, le Seigneur, qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice fait cheminer les humbles. Il leur enseigne son chemin. »